Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM 20h pétante. À la suite des informés, la troupe d'Adil Farkan que vous pouvez retrouver dès à présent sur le site internet avec les replays, les podcasts aussi sur toutes les plateformes, sans oublier aussi dès demain, 19h, 20h les informés. Allez, ce soir 20h, 21h, c'est l'avant-match comme il se doit, soir d'Europe ce soir. On va parler de quoi au programme de cette émission ce mardi soir, mardi 24 octobre. On va parler de Lens, les 100 et or, la nouvelle tendance, c'est le point d'interrogation. Et oui, à travers l'Europe, les entraîneurs français avec un invité de marque comme il se doit. Et là, il prend son habitude dans cette émission. Et on parlera bien sûr du Paris Saint-Germain versus les Rossoneri, le Milan AC dès demain, du côté du Parc des Princes, 21h. Le 01 53 48 3000, c'est pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport. C'est le débat du jour, on le rappelle. Nos entraîneurs français gardent-ils la cote selon vous? C'est la question que l'on vous pose et que l'on se pose, chères auditrices et auditeurs. Rien de plus simple, vous nous contactez, vous composez le numéro du standard, le 01 53 48 3000, et on vous fait passer à l'antenne avec toute l'équipe de Time Sport. D'ailleurs, on le rappelle, conférencier aussi directeur, entre autres, académique au groupe HEC. Hein, il est l'illustre connaisseur de la pédagogie, mais aussi du monde des entraîneurs, et pas que. C'est Lionel Bélanger qui est encore une fois avec nous sur l'antenne de Beurre FM. Sans plus tarder, je vais présenter Lionel, mais aussi toute l'équipe qui m'accompagne ce soir. C'est parti, go go Time Sport.
Time Sport. Il est pour parler.
Eh oui, dans un premier temps, on va présenter qui ? Mathieu, il est là avec nous encore une fois. Mathieu, comment ça va ?
Bonsoir,
tu t'es pas pris peut-être ?
Bonsoir Bilal, comment tu vas ?
Ah ben moi ça va bien, tranquillement.
Écoute,
on parle de Coupe d'Europe ce soir.
On a encore un très beau programme et je dois m'excuser auprès de tous les auditeurs et toutes les auditrices.
C'est ça. Jouba me dit, il a dit quoi hier, Mathieu ? C'était ce soir.
Et puis j'ai fait une boulette.
C'est pas hier.
Et c'est ce soir, la reprise de la NBA et non pas hier soir. Donc tous ceux qui sont levés à 1h30 du matin, je suis désolé.
Rudy Kesby qui était dans les informés, il s'est levé à 1h. Ben oui, il a rien compris.
Mais la remise de la bague, c'est bien ce soir à 1h30 du matin pour les Denver Nuggets qui joueront un gros match face aux Lakers, et à 4h du matin les Warriors de Golden State face aux Suns de Phoenix.
C'est ça. Mickaël qui est avec nous. Bonsoir Mickaël, comment ça va?
Bonsoir Bilal, bonsoir à tous. Bah ça va.
Elle est belle la coupe Mickaël.
Merci
belle
Bilal,
coupe de
je me suis fait
voilà,
coupe,
tout beau. Il est là.
Pour mon retour sur Beurre FM.
Eh ben juste en face, on va apercevoir qui? On va apercevoir Juba. Bonsoir Juba, comment ça va Juba?
Bonsoir Bilal, bonsoir à toute l'équipe qui est là. Bonsoir à Lionel qui nous fait le plaisir de venir dans cette émission. Et voilà, donc émission shot comme l'ambiance visiblement autour du stade Bollard, parce qu'il y a eu des hooligans néerlandais.
Toi, ça chauffe.
Ça chauffe. La police est sur place. Là il faut suivre l'évolution des
faits. On va suivre aussi le terrain. Hein.
C'est chaud.
Pas que la police.
Évidemment, ce match incroyable de Lens qui vient après l'exploit lors de la journée précédente en Ligue des Champions.
Bendy est de la partie. Bonsoir Benjamin, comment ça va ?
Bonjour Bilal, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver. En plus, comme Mathieu l'a dit, cette fois c'est pour de vrai. Le retour de la NBA
est
bien présente. Et ça commence à partir de 1h30, à partir de 4h. Et également, après, on aura du coup un Denver Lakers magnifique en ouverture. Puis un Golden State Phoenix Suns pour les plus matinaux. Ça va être du régal et j'ai trop hâte. Je ne tiens plus en place.
Un magnifique ouvrage, on le rappelle. Ils ont garé le bus devant le but. Pourtant, on a réussi à marquer aux éditions USF. C'est Lionel Bélanger. C'est lent, mais c'est beau. C'est bien raconté, justement. Bonsoir Lionel, comment ça va?
Bonsoir à tous, bonsoir Bilal.
Ça va
très
bien,
très bien.
Tranquillement. Lionel, on va avant de partir sur le premier sujet de cette émission, on va présenter. Et avoir le petit coucou, non pas de Nasser, parce qu'il aime bien se frapper le Buonasera, c'est Solal, notre réalisateur. Bonsoir Solal, comment ça va?
Buonasera a tutti, j'espère que Solal. Vous allez bien. Écoutez, magnifique.
Ça va bien, on
nous
écoute aussi à Rome.
Bah oui, écoute, big dédicace à nos amis italiens qui nous écoutent ce soir. Très beau plateau, magnifique sujet, on va se régaler les amis, chers auditeurs et chères auditrices. Oubliez pas le numéro, comme d'habitude, 01 53 48 3000. Si vous voulez réagir avec nous, et on fait un gros bisou tout simplement.
Il tease bien. Il a bien raison, le réalisateur Solal, qu'on pourra retrouver jusqu'à 23h avec Vanessa, 21h, 23h. Aujourd'hui, 21h, ça approche le match Lens PSV Eindhoven. On abordera aussi les compositions avec, pourquoi pas, Juba et Mathieu. En tout cas, on s'attarde concernant Hayes. Et il raconte comment gagner cette bataille face à Eindhoven après celle gagnée face aux Gunners, justement. Nos entraîneurs français, où sont-ils passés? On va aborder le sujet dans le second débat de cette émission. Mais Lionel, on est toujours bon en ce domaine-là?
Bah, je crois que les entraîneurs français ont quand même des résultats.
Ouais.
L'année dernière, c'est un entraîneur français qui a gagné la Coupe de France, Philippe Montagnier, ce qui lui a valu d'ailleurs de se faire limoger.
Il y en a beaucoup.
Le deuxième du championnat, Lens, c'est Francaise, un récent diplômé du BEPF. Donc, on les trouve au plus haut niveau.
Bah, le meilleur entraîneur du monde, il s'appelle Zinedine Zidane. Donc,
il est français.
Il est français, là.
Michael. Ouais, parce que demain on jouera le Paris Saint-Germain jouera, ça sera le dernier débat de cette émission face au Milan AC. Lens, PSV, Eindhoven. Et oui, les Hollandais justement. Et les Sangayors, on attend beaucoup de cette équipe parce que le gros match de ce soir, ça sera Sévillan face aux Gunners d'Arsenal.
On attend beaucoup de Lens, surtout que Lens est plutôt bien positionné avec une victoire et un match nul. De son côté, le PSV, c'est une grosse défaite contre Arsenal 4-0 et un match nul contre Séville. Donc le PSV est un petit peu en mission pour continuer à croire à la qualification. Surtout que il y a eu des investissements cet été, comme on a pu le dire en off. Il y a une très belle équipe du côté du PSV. Lens a forcément l'avantage de jouer à domicile devant ses supporters. Même si, comme l'a dit Juba au préalable, il y a quelques petits soucis du côté du nord de la France. Mais voilà, Lens est plutôt... Pour moi, Lens ne doit pas avoir une grosse pression ce soir. C'est Lens qui doit c'est le PSV qui doit aller chercher un résultat à Lens. Donc moi, je les sens bien personnellement les hommes de Francaise. Même si en championnat, ça reste encore.
Le match contre Le Havre, c'était chaud. Hein,
mais c'est, tu sens que c'est une équipe qui peut être en mission, qui peut être autour de son coach. Donc je suis pas forcément inquiet pour Lens ce soir.
Oui.
Personnellement.
Benji. Ouais, il n'est pas inquiet lui.
Ouais, non, je suis plutôt d'accord dans l'idée parce que enfin il faut quand même se rappeler que les débuts difficiles en Ligue 1 viennent aussi de joueurs majeurs qui ont été perdus cet été. Exactement. du côté du Racing Club de Lens et je trouve déjà que le travail de Frank Hayes pour remobiliser une équipe, pour reconstruire une vraie tactique sans bafouer ses principes avec des nouveaux joueurs comme ça, je trouve qu'il le fait plutôt très bien. On voit que ce qu'il met en place sur les deux matchs, notamment de Ligue des Champions, sont absolument exceptionnels. Et je pense que ce soir, on va avoir vraiment un bel affrontement entre notre cher Frank Hayes et Petrescu, l'entraîneur du PSV Eindhoven, qui est également, je trouve, qu'il met aussi de très bonnes choses en place du côté d'Eindhoven, notamment en championnat. Lui, pour le coup, on a un peu l'inverse entre Lens et le PSV. Le PSV qui réussit très bien en championnat, mais qui a plus de mal en Ligue des Champions.
Ouais.
Et de l'autre côté, Lens qui performe très bien en Ligue des Champions et qui a plus de mal en championnat. Mais comme je le disais, je suis pas inquiet pour Lens parce que le résultat ce soir est important parce que tu es à domicile, donc tu te dois quand même de faire un résultat. Certes, c'est le PSV qui doit faire un résultat, mais Lens ne doit pas lâcher trop de points parce que quand on sait que l'ambiance de Bollaert est un vrai avantage pour Lens,
c'est bouillant.
Et quand ils iront jouer à l'extérieur, ce sera pas la même chose. En espérant évidemment que Frank Hayes aura réussi avec le temps à continuer à instaurer cette dynamique et surtout cette science tactique qu'il a. Et qu'on parlait des entraîneurs tout à l'heure, je dirais tout le bien que je pense de Frank Hayes, qui est pour moi un des meilleurs entraîneurs français actuellement.
Il plaît beaucoup, Lionel, cet entraîneur lensois. C'est vrai.
Oui, moi je l'ai connu pendant un an au BEPF. Ouais. C'était un très très bon candidat. Cette année, on a son adjoint, d'ailleurs, Nalice.
Ah ben voilà, ça pour l'info.
Qui est avec nous, qui est un garçon très très bien également. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que les entraîneurs français, il y a un match qu'ils perdent, c'est le match contre leurs dirigeants. Je m'interroge pourquoi. On connaît des raisons. Mais lorsqu'on va en Champions League et qu'on perd dans la même année ses deux meilleurs joueurs, son buteur, etc., là, il y a un truc qui ne va pas.
Ouais.
Là, il y a un truc qui ne va pas.
Ouais.
Alors, Lens doit faire face à une concurrence, notamment des clubs anglais et tout ça, avec des budgets bien plus importants, qui offrent des salaires bien plus importants. Au bout d'un moment, il y a aussi ce jeu-là de l'argent, même en France, évidemment. Et Lens n'est pas dans le top 3 des budgets français. Donc, voilà. Mais en tout cas, Lens qui doit montrer un tout autre visage que celui qui a été face au Havre, parce que le match était catastrophique vendredi soir. Lens qui doit au contraire s'appuyer sur sa démonstration face à Arsenal. Arsenal qui joue d'ailleurs Séville ce soir et qui doit montrer que c'était pas un exploit, que ça s'inscrit vraiment dans une bonne ambiance et surtout là on en a parlé en préambule de cette émission. Il faut pas que ce qui se passe en dehors de ce stade, les affrontements, le sang, les mettre hors du match. Le sang est hors.
Ouais.
Voilà.
Ouais, bien sûr. Les jeux sur les mots, pas mal. Ouais. Ouais, bien sûr. Poète à ses heures perdues des fois. Peut-être une réaction, Lionel. Ouais.
Oui.
Ouais, la manne financière, je sais pas le.
Oui,
ouais,
mais,
qui peut porter.
Mais encore une fois, c'était arrivé. La même chose était arrivée à Lille 3 ans plus tôt. Ouais. Quand ils ont été champions.
S'en souvient.
Quand Justin Gorenec est arrivé, ils se sont séparés de 2 ou 3 des joueurs majeurs qui avaient fait gagner le titre. Ça recommence là avec Lens. Et je pense qu'il y a des choix quand même. Alors je sais très bien qu'il y a des problèmes de salaire, il y a une revalorisation salariale qui est assez importante, mais quand on va chercher des joueurs à une 40aine de millions, comme le jeune joueur de Montpellier, et qu'on laisse partir Fofana, qui est une pièce maîtresse dans le système de
Thèse,
ne serait-ce qu'une année pour faire la Champions League.
Après le problème.
Au moins une année pour faire la Champions League. Parce que moi, je m'interroge quand même sur la mentalité des joueurs.
Alors,
faire une Champions League, ça n'intéresse pas un joueur?
Ouais.
Ça vaut rien contre l'argent. Ça vaut rien contre
l'argent.
Faire une Champions League.
Je pense que
qu'est-ce qu'ils ont dans la tête.
Je suis plutôt d'accord avec vous.
Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? C'est les agents derrière.
Moi je pense que
tiens, forcément dans un mercato il y a les offres, il y a aussi les volontés des joueurs. Et que ce soit Luis Openda ou Seko Fofana, c'est des joueurs qui voulaient partir. Luis Openda parce qu'il voulait aller du côté du RB Leipzig, qui joue également la Ligue des Champions. Il va jouer la Ligue des Champions. Seko Fofana, je pense que il y a une discussion avec. Je pense qu'il y a vraiment une discussion avec les dirigeants lensois, parce que Fofana, c'est un joueur qui était capitaine de Lens, qui est resté, qui était un joueur exceptionnel à l'Udinese en Serie A, et pour des raisons personnelles, il est venu à Lens, il est resté à Lens malgré les sollicitations. On se rappelle notamment de sa prolongation en 2022. Du coup, je pense qu'il y a vraiment une discussion et c'est vraiment d'un commun accord parce que voilà, comme il a su à un moment donné apporter ce qu'il devait apporter, bah, le club lui a dit bah, on te laisse partir si tu veux partir. Je pense vraiment que ça vient.
Et vous voulez des liquidités aussi, peut-être Lens.
Bah, après Lens a réinvesti beaucoup. Je veux dire, Seko Fofana est parti pour 18 millions. Ils ont acheté Andy Diouf pour 20aine de millions d'euros. Et Luis Openda est parti pour 35 millions d'euros et Eli Wahi a été recruté pour 35 millions d'euros également.
Ouais, Mathieu, on l'écoute.
Andy Diouf, c'est pas le même niveau que
c'est pas le même niveau, mais
avec tout le respect que j'ai pour Diouf. Et puis je suis plutôt d'accord avec Lionel, c'est-à-dire que la Ligue des Champions, c'est la plus belle compétition européenne.
Ouais. Mais après, on connaît pas la vie des gens, bon, tu vois.
Si il vient d'un milieu où vraiment il est plus difficile,
et qu'il se dit qu'il peut mettre sa famille à l'abri sur des générations et des générations.
Mais regarde, t'as jamais joué à la Ligue des Champions de ta vie, t'as une opportunité.
Mais
moi,
je suis d'accord avec toi.
Peut-être jamais.
Parce qu'on a un point de vue extérieur. On a un point de vue en tant que personne qui regarde le foot, qui suit le football, qui analyse le football. Donc, on avait envie de voir un joueur comme Fofana avec le maillot sans et or jouer la Ligue des Champions. Mais si lui, il avait l'impression d'être arrivé à la fin d'un cycle. Si lui, il avait l'impression qu'il avait fait le tour et que peut-être que lui, la Ligue des Champions, c'est pas quelque chose qui l'anime. Tu vois, on n'est pas dans la tête des joueurs. Il y a plein de joueurs qui n'aiment pas le football et qui sont pourtant professionnels.
Et petite précision, Fofana, quand il est parti, est devenu actionnaire minoritaire de Lens. C'est la première fois qu'un joueur de foot prend une part actionnariale comme ça de cette façon.
Ouais, quand même.
Donc vraiment, je pense vraiment qu'il a voulu partir. Je pense que les dirigeants lui ont dit, vas-y, pars. Et je pense que voilà, on connaît pas forcément la vie des gens. La carrière de Seko Fofana, elle est un peu particulière parce que je pense qu'il aurait pu viser bien plus haut. Et finalement, il est resté à Lens. Voilà, c'est un parcours qui est assez atypique et on n'a pas forcément l'habitude.
C'est un club historique, Lens aussi.
Mais
faut pas oublier. Hein.
Quand t'as l'opportunité comme Openda d'aller à Leipzig et que tu sais que c'est un tremplin assez exceptionnel pour aller dans d'autres gros clubs derrière. Tu comprends aussi un petit peu la logique, en sachant que
tu parles de qui, Nkunku?
Non, de Openda. Ouais, après parce que oui,
par rapport à Nkunku,
par rapport à tous les joueurs qui vont en Bundesliga, ils savent que c'est une exposition qui est extrêmement intéressante, et surtout qu'il avait la Ligue des Champions derrière, donc c'est triste pour Lens, et surtout que voilà, que ce soit Wai ou Diouf, c'est des très jeunes joueurs qui doivent s'adapter.
Ouais. Donc, rapide avant la première pause.
Pour revenir au match, on a quand même on a quand même un championnat, on a quand même un Lens avec deux différents visages, c'est-à-dire en championnat où ça va pas du tout. Et en Ligue des Champions, ils arrivent à se transcender et à faire des matchs comme ils l'ont fait, notamment contre Arsenal. Après, on sait que historiquement, contre les clubs néerlandais, c'est un peu compliqué pour les clubs français.
Toujours.
Donc, ne pas prendre à la légère cette équipe du PSV. Mais,
on va revenir avec nos pronostics en fin d'émission.
On espère que les Lensois vont pouvoir faire un gros match ce soir.
Ouais, on l'espère tous. Vous restez avec nous, chers auditeurs. On revient rapidement avec notre invité de ce soir, Lionel Bellanger, et avec toute l'équipe de Time Sport.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM ce mardi soir, mardi 24 octobre, 20h et 20 minutes, toujours en compagnie de Mickaël, de Benji, Mathieu, sans oublier Juba. On passe le bonsoir à qui? À Yacine qui nous écoute. Et oui, il est en convalescence, Yacine. Hein, et voilà. Et ben, il pense à toi aussi, Mathieu. Il voulait être avec le duo Mathieu, Benji, sans oublier Juba et Mickaël. On est en compagnie de Lionel Bellanger. Allez, place à l'invité de ce soir.
Time Sport. The special one, the special
on ne sait plus one. Comment le décrire, Lionel Bellanger, hein. Et oui, avec son illustre livre aux éditions Sciences Humaines, ESF, ils ont garé le bus devant le but, pourtant on a réussi à marquer. Ça fait tant sourire l'équipe de ce soir qui m'accompagne, petit éloge du métier insensé de coach. Préface, on le rappelle, par l'illustre Gérard Rouillet aussi. Hein. Lionel, on va revenir, parce que c'est vrai que voilà, Juba il aime bien, hein. Il aime bien mettre un peu de la dynamite dans cette émission, hein, partir dans tous les sens, mais nous aussi on aime bien ce Juba, hein, concernant Zidane avec Benji, on va revenir un peu sur oui, ces entraîneurs français. Ouais, peut-être on est bien placé, peut-être on commence à régresser, mais en tout cas, la France est toujours bien présente dans le football. Hein. On l'espère pour longtemps encore, avec cette pépinière de à la formation à la française, comme on dit, mais aussi ces jeunes joueurs en devenir professionnels.
Oui, je crois qu'il y a des bons entraîneurs. La formation au BEPF est d'un bon niveau. Ce qui se dit, semble-t-il, c'est deux choses. D'une part, les entraîneurs français, peut-être, sont un peu défaillants sur les réseaux. Ils ont un problème de réseau, de relations, par rapport à des entraîneurs étrangers qui sont incontestablement mieux entourés et mieux boostés. Et puis, apparemment aussi, le passage des clubs français aux mains d'investisseurs étrangers fait qu'ils regardent moins du côté des entraîneurs français, ils regardent plus du côté des entraîneurs étrangers. Bon, ce qui me fait un petit peu peur aujourd'hui, c'est qu'ils ne vont plus chercher seulement des têtes d'affiche, mais ils vont chercher des seconds couteaux. Grosso, Gattuso, c'est pas des premiers couteaux.
Je suis d'accord.
Dernière minute.
Ça c'est à la va-vite. Tu parlais de réseau, Lionel. Moi, je me permets d'intervenir parce que c'est intéressant. Parce que par exemple, tu vois, tu constates aussi qu'il y a des entraîneurs français qui font une grosse partie en Afrique. On pense un peu à Hervé Renard, à Le Guen, à tous ces gens-là. Est-ce que il y a une raison? Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique cela? Est-ce qu'il y a une France-Afrique du foot?
Je crois que ceux qui partent, fondamentalement, c'est parce qu'ils ne trouvent pas de projet intéressant en France.
En Europe, en France,
pour des raisons pécuniaires, ils partent. Je crois que pour les côtoyer, vraiment, je crois que comme les joueurs, ils ont envie d'entraîner. C'est une frustration terrible. Ils le vivent mal, indépendamment des problèmes d'argent. Ils le vivent psychologiquement très mal, sans trouver un an au chômage, etc. J'entendais un coach avec lequel j'ai travaillé, que je connais bien, qui est chez Pôle Emploi en ce moment, hein, et chez Pôle Emploi, il est tombé sur un employé qui l'a reçu, qui savait pas qu'il était entraîneur de football. Il lui a dit vous avez qu'à travailler dans le sport. Et il lui a répondu est-ce que vous estimez qu'être jardinier pour entretenir une pelouse, c'est dans le sport? Et le garçon lui a dit oui, bien sûr. Si vous voulez, je peux vous conseiller dans ce domaine-là.
Ils vivent ça très très mal.
Après, moi, je voulais revenir.
Mathieu, vas-y.
Il y a beaucoup d'entraîneurs français qui entraînent justement, comme disait Juba, des sélections, pas qu'africaines, mais beaucoup de sélections. Et, est-ce que c'est parce que le rythme leur convient mieux, ou est-ce que c'est parce que aussi ça fonctionne pas en club? Parce qu'on a vu Hervé Renard entraîner en Ligue 1. Ça n'a pas fonctionné. En tout cas, il n'a pas eu le temps qu'il aurait
peut-être
fallu.
Peut-être. Mmh. Ouais,
et ça fonctionne très bien avec les sélections pour Hervé Renard. Mmh. Donc, est-ce que c'est une question aussi de rythme?
Franchement, je ne suis pas sûr. Je crois qu'il y en a beaucoup qui essayent en sélection. Il y a des Français qui ont échoué aussi en sélection.
Oui, bien sûr.
Bon, quand ils réussissent, Hervé Renard, il a, Il a eu une martingale, ça a marché pour lui. Il y a des réflexes différents en tant qu'entraîneur et sélectionneur. C'est pas la même chose.
Bien sûr.
C'est 8 ou 10 rendez-vous dans l'année. C'est 8 ou 10 rassemblements. C'est pas la même. Sur l'aspect psychologique, c'est pas la même chose. Donc il y en a qui arrivent à trouver la bonne distance.
Ouais. Ouais.
D'autres pas.
Ouais,
c'est vraiment pas le même job. Hein.
Ouais. Benji, réaction avec Mickaël.
Moi, je vais rebondir un petit peu sur ce que disait Mathieu en partie. Et, ouais. Et moi, d'un point de vue de personnes qui suivent le football et qui suivent les entraîneurs français, qui suivent les différents entraîneurs, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe et vous allez me le dire, quand tu parlais tout à l'heure des défauts des certains entraîneurs français, tu parlais des réseaux, moi j'ai l'impression que par un moment, on a un peu ça aussi d'un point de vue vraiment technique, tactique également, de leur vision du football. J'ai l'impression que différents entraîneurs étrangers, par exemple, vont prendre peut-être plus de risques sur certains schémas de jeu, vont peut-être avoir une analyse plus poussée techniquement et dans l'analyse de l'adversaire. Et surtout, j'ai l'impression, et peut-être un petit peu moins maintenant, mais j'ai l'impression que c'est venu avec les entraîneurs étrangers en Ligue 1. Avant, on avait vraiment l'impression que le mot d'ordre des entraîneurs français, c'était l'équilibre. Qu'il fallait qu'il y ait un équilibre, littéralement, au milieu de terrain, le milieu, l'attaque, la défense. Il fallait qu'il soit équilibré, qu'il y ait des joueurs qui soient équilibrés, donc pas qu'il y ait trop d'espace, machin et tout. Et donc, des fois, on avait l'impression que c'était un peu un football un petit peu conservateur. Et est-ce que ça a pas pu faire un petit peu de l'ombre aux entraîneurs français? Est-ce que c'est en train de bouger? Et ça peut faire le lien avec ce que disait Mathieu quand on parlait de sélection. Peut-être que les entraîneurs français sont peut-être de meilleurs managers que techniciens. Beaucoup de questions, mais
qu'est-ce que vous en pensez? Si on prend les deux champions du monde, Aimé Jacquet et Didier Deschamps, ils offrent une copie très équilibrée entre la défense et l'attaque. Ouais. Avec même une propension à bien défendre,
ouais. Plus défensif,
prioritairement. Ouais, ouais. Ça fait quand même deux fois champion du monde en 20 ans.
Ouais.
Quand
ouais.
même.
Ouais.
Oui, bien sûr.
Bon, alors après, il y a des entraîneurs étrangers, évidemment, on va citer les références, et Guardiola, qui ont véritablement apporté un regard, une manière de concevoir le football à leur façon.
Louis Enrique.
Klopp, à Liverpool aussi. Ils ont une personnalité très forte. Sont des leaders en termes de choix tactique, en choix de prise de risque, etc. Mais l'équilibre entre la défense et l'attaque, en soi, c'est un choix aussi respectable
ouais,
que
sûr.
De se précipiter ouais, ou que être audacieux.
Intéressant.
Ou quoi que ce soit.
Ouais.
Autant vraiment.
Ouais.
Vraiment.
Mickaël, intéressant.
J'ai une petite question parce qu'on voit beaucoup d'entraîneurs néerlandais, espagnols, italiens s'exporter beaucoup à l'étranger. On a quand même assez peu d'exemples en France.
Lucien Favre.
On a,
le réseau, il disait, je pense.
On a Rudy Garcia, on a
Lucien Favre.
Il est pas français. Non, il est suisse.
Ouais.
On, on a Philippe Montagnier qui est entraîné en Espagne. Mais au final, on a quand même l'impression que il y a assez peu de tentatives à l'étranger. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça ou pas?
Alors, je crois qu'ils n'ont pas une notoriété. Justement, ils n'ont pas assez de réseaux, ils ne sont pas assez connus.
Ouais, vous.
Ils ne sont pas assez connus. Et par exemple, on travaille avec eux, avec Claire Fontaine, sur le fait de les rendre plus à l'aise avec les médias, de maîtriser les conférences de presse, etc. Parce que c'est comme ça que tu te fais connaître.
Exactement.
Aussi. Par tes résultats, mais aussi par ta communication.
Par exemple, un coach comme Vincent Riquet, avant d'arriver au PSG.
Alors, on les soulève, c'est multifacteur, toujours. Mais il n'y a pas que ça. Mais par exemple, la maîtrise des langues, ils ne sont pas très à l'aise.
Ouais.
Très nombreux, ils sont très nombreux et pas très à l'aise avec les langues.
Ouais. Nos voisins aussi. Nos voisins à l'aise avec, un peu polyglotte. Et
voilà. Comparé à nous. Apparemment, les entraîneurs étrangers qui viennent en France n'ont absolument aucun complexe à ne pas parler le français.
Ils ont les traducteurs.
Moi, j'ai accompagné Gérard Rouillet pendant 20 ans. Tout joueur qui venait à Liverpool doit apprendre l'anglais dans les 6 mois qui viennent. Voilà. Parce que lui, il dit, ils ont du temps. Faut pas raconter des histoires. Ils ont du temps de libre. Ils ont de l'argent. Ils peuvent avoir tout l'encadrement qui soit pour apprendre une langue. En 6 mois, quand t'es dans le pays, quand tu es dedans, dans le
c'est
pays.
Ça.
Si tu es aidé, il n'y a aucun problème.
Ouais,
et Gérard, il a dit, tous ceux qui n'ont pas accepté ça, ils ont échoué à Liverpool. Ils ont échoué. Dont quelques Français. Ils ont échoué.
Et justement, vous parliez de...
Mathieu,
vous
parliez avec Bélanger, avec nous.
De la Première Ligue. Il y a vraiment un entraîneur en Première Ligue français qui a marqué l'histoire.
Ouais.
C'est Arsène Wenger.
Wenger, les Gunners nous écoutent ce soir.
De par sa longévité et de par ses résultats, moi j'ai une question justement. Est-ce qu'on laisse assez de temps aux entraîneurs aujourd'hui?
La réponse est non. La réponse est non. Aujourd'hui, la durée
très vite.
Nous, ça nous rappelle un peu la vie des entreprises où c'est 2 à 3 mois de préavis à peu près.
dans une situation d'échec. Bon, là, c'est quoi aujourd'hui? C'est 7, 8, 10 matchs à peu près. Quoi. Là, il y en a quelques-uns en Ligue 1 qui vont commencer à frôler le parapet. Hein. Ouais. À 7 matchs sans victoire, t'es dehors pratiquement.
Et comme vous avez dit, il y a Philippe Montagnier qui a gagné la Coupe de France, ça l'a pas empêché de se faire virer. Donc ça aussi, c'est incompréhensible.
C'est incompréhensible, mais là, je le vis mal au BEPF parce qu'on travaille énormément sur la communication. Et là, dans le cas de Philippe Montagnier, et il y en a d'autres, ce sont des échecs quand même relationnels au sein du club, en termes de management.
Donc ça va au-delà du sportif.
Qui s'est fâché, semble-t-il, avec la femme du dirigeant, tout ça, etc.
C'est des extra-sportifs.
Bon. Des problèmes relationnels. Ils sont confrontés à ça aujourd'hui. Louis Henriquet, attention, il est très fâché avec les médias. Hein.
On a vu la dernière sortie avec le confrère de Frédéric.
Aucun égard. Il vit dans
Alexandre Ruiz.
Je parlais de longévité parce que il a eu énormément de succès, mais il a aussi énormément d'échecs. Il aurait pu se faire virer à maintes reprises. Arsenal a continué de lui faire confiance.
C'est pas mal ce qu'il a fait aussi avec Arsenal.
Il y a un problème de longévité.
On a eu une masterclass la dernière fois avec Mourad concernant les Gonards.
Moi, je suis complètement d'accord là-dessus et c'est le point commun que j'ai entre mon expérience de la vie des entreprises et le sport. C'est que pour un manager, c'est dans la durée que tu juges la qualité.
Bien sûr.
Quand on cherche quel est le meilleur entraîneur du monde, etc., c'est pas celui qui a gagné une Coupe du Monde un jour et puis qui a pas fait grand-chose autour, mais c'est celui qui dure, qui a un palmarès.
Ouais.
Gérard, c'était 14 trophées. Mourinho, c'est 7-8. Klopp, c'est je ne sais combien. Guardiola,
mais pourtant, Klopp, l'année dernière, c'était compliqué en plus.
Ouais. C'est la durée. Ouais.
Et je parlais de Zidane.
On revient. Vas-y avec toi sur Zidane.
Quel est votre regard à vous sur Zidane? C'est vrai que vous parlez du Zidane a quand même traumatisé le football avec très vite beaucoup de titres en l'espace de très peu de temps. 11, si mes souvenirs sont bons, hein, c'est ça. 11 titres au total en très peu de temps. Quel est votre regard, vous, sur Zidane?
Moi, j'aurais tendance à dire bravo, extraordinaire, parce que la durée, il l'a. Le palmarès, il l'a. Bon, j'aimerais le voir réussir ailleurs.
Oui.
J'aimerais le voir réussir ailleurs parce que ça aussi c'est un indice.
Marseille ou un autre club,
Un indice. On avait dit par exemple à une certaine époque, je remonte à plus loin là, Giroud à Auxerre, il a fait sa carrière là-bas.
Il y a 40 ans.
La seule fois à la fin où il est parti, il a échoué en 6 mois.
Bien sûr.
Et l'équipe de France?
Il a échoué en 6 mois.
L'équipe de France, vous le voyez en équipe de France?
Zidane?
Oui. Ouais.
Je pense que ça serait pas mal qu'il aille à nouveau réussir dans un club avant de venir dans l'équipe de France.
Ah oui,
je suis d'accord.
Il n'a pas tant réussi, peut-être en club.
Vous êtes content de
le voir réussir ailleurs. J'aimerais le voir réussir ailleurs.
Le voir réussir ailleurs.
Pour moi, ça dépend de quel club on va parler pour Zinedine Zidane. J'ai un immense respect pour le joueur. C'est une légende absolue du football français, peut-être la plus grande légende du football français. Et je n'oserais jamais le critiquer sur un terrain de football. Mais d'un point de vue extérieur, de ce que j'ai pu voir de la période Zidane au Real Madrid, absolument exceptionnel, magnifique, dans sa communication, clean, parfait. Mais par contre, moi, ce que j'ai très peur, c'est de le voir. Est-ce qu'il serait capable de tirer le meilleur d'un effectif moyen dans un championnat où il a une équipe qui est sur le papier, qui a un effectif, on va dire, moyen plus? Est-ce qu'il serait capable de les amener jusqu'à un titre, par exemple? Est-ce qu'il serait capable de tirer vraiment le meilleur, de faire évoluer des joueurs de manière positive et de réussir à mettre une tactique en place vraiment précise pour pouvoir tirer le meilleur d'un effectif moyen? Et ça, j'en suis pas sûr, parce que ce que j'avais l'impression au Real Madrid, c'est qu'il se reposait vraiment sur des individualités très fortes et son football, sa tactique vraiment, c'était de réussir à concrétiser extrêmement bien ses temps forts et de minimiser c'est les dégâts subis dans les temps faibles. Je suis pas sûr si ça suffirait. Je parle au conditionnel. Je ne suis pas sûr de si ça suffirait dans un club qui a un effectif, on va dire, qui n'est pas le meilleur dans le championnat dans lequel il est, tout simplement, ou la compétition dans laquelle il est.
Alors. Oui, Jouba, il n'est pas d'accord.
Moi, je suis globalement pas
réaction,
d'accord parce
Jouba.
Que il fallait vite arriver, il fallait marquer le coup. Il succédait pas à n'importe qui non plus. C'était une légende juste avant, il fallait marquer le coup. Je pense que ce qu'il a réussi à faire, décrocher les Ligues des Champions, c'est pas anodin de gagner une Ligue des Champions. Hein.
Ouais.
C'est un exploit et on l'a dit. Moi, à l'époque, on travaillait avec Mickaël dans des médias typiques PSG et on en parlait. C'est pas un truc facile du tout. Et là, il t'en enchaîne, il t'en met trois comme ça. dans l'escarcelle. C'est quand même quelque chose. Moi, je pense que Zidane, il a à la fois ce flegme et ce flegme qui permet de passer énormément de messages à ses joueurs. Cette vision du jeu, il a vraiment tout pour réussir, et c'est pas hasard, encore une fois. Et prendre le Real Madrid, c'est pas un cadeau, hein, c'est pas facile.
Je suis totalement d'accord.
Et d'accord avec William Michael.
Oui, je suis assez d'accord avec Juba. Comme
c'est intéressant aussi,
c'est pas faux. Pas parce que t'as les meilleurs joueurs que tu arrives à avoir la meilleure équipe et la meilleure, la meilleure cohésion. Je pense que, au niveau du relationnel, Zinedine Zidane, c'était quelque chose d'assez exceptionnel au Real. Tous les joueurs qui parlaient de Zidane, c'était le dieu. Pas tous les grands joueurs arrivent à une période de leur vie en tant que grand coach, en tant que coach qui sait se faire entendre. On peut parler de Diego Maradona, par exemple. Mais paix à son âme.
Au mondial 2006.
Mais en tout cas, voilà, Zidane, ce qu'il a fait au Real Madrid, c'est exceptionnel. On peut parler de son football qui peut être jugé comme assez minimaliste par certains, mais tout ce qu'on peut voir sur ces trois ans-là, c'est que le Real Madrid, c'était une machine de guerre et que personne ne pouvait les battre.
Ah, c'est pas faux. Vous restez avec nous, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM. On revient rapidement avec le match phare de demain soir, le PSG qui rencontrera le Milan AC.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour pour la dernière partie de cette émission, 20h et 36 minutes, toujours en compagnie de Lionel Bélanger, on le rappelle, hein, ils ont garé le bus devant le but, pourtant on a réussi à marquer aux éditions ESF. Et oui, préface se fait par un certain Gérard Houillet. Voilà, Lionel Bélanger qui est toujours là avec nous jusqu'à la fin de cette émission, avant d'accueillir Vanessa 21h, 23h, la dernière partie de cette émission.
Time Sport, le mode pressing.
On le rappelle, avant de donner la composition pour le match entre les Lensois et le PSV Eindhoven, 2-1 concernant l'Inter face à Salzbourg, on rappelle, hein, Sanchez et Kalanoglu, et aussi du côté de Salzbourg, c'est Gluck. On rappelle aussi le match concernant Galatasaray au Bayern de Munich, c'est Icardi sur une fameuse Panenka. Coman a ouvert la marque, Harry Kane et sans oublier Moussala. Voilà. La compo, messieurs, avec Benji. On commence avec toi, Benji.
On va commencer avec Lens, avec toujours dans les buts, bien évidemment, Brice Samba, toujours avec le brassard de capitaine, Grady, Danso, Medina pour cette défense, Frankowski, Mendy, Abdoul Samed, Machado, Sotoka, Wai, Fulgini, donc toujours cette fameuse défense à 3 avec ces deux latéraux qui montent très très haut et qui vont avoir un rôle de piston du côté de Francaise.
Ah ben voilà, et on a aussi Anis, notre auditeur qui nous écoute ce soir et il annonce une victoire encore une fois, descend et hors de Lens. Mathieu, on t'écoute.
Et du côté du PSV Eindhoven avec Benitez dans les buts, Tézé, Ramalho, Boscagli, Dest en défense, Tillman, Schouten, Verman au milieu et devant Bakayoko, Lozano et De Jong en pointe pour les Néerlandais.
Deux anciens Niçois du côté.
Oui, voilà. Justement, Mickaël, la passe D de Mickaël en faveur de Mathieu, hein, on le rappelle, demain, on saura le mercredi 25 octobre et le Paris Saint-Germain rencontrera donc le Milan AC, hein, le Milan AC de Olivier Giroud, c'est bien ça, hein. On nous donne, allez, les bookmakers se donnent 53% de chances de victoire pour le Paris Saint-Germain, un nul à 27% et 20% de chances pour une victoire des Rossoneri en terre parisienne.
Ils sont fébriles, hein.
Vas-y, Mickaël.
Le PSG, après la claque reçue contre Newcastle la journée précédente, on attend forcément une grosse réaction, surtout dans l'attitude. De l'autre côté, ça va être quand même un match avec le Milan qui reste sur une défaite contre la Juve en championnat ce week-end. Le Milan AC qui a une équipe intéressante sur le papier, pas non plus une équipe qui peut, voilà, on va pas se dire que le Milan AC peut truster la Ligue des Champions cette saison, donc sur le papier on peut quand même se dire que le Paris Saint-Germain est assez nettement favori, surtout à domicile, avec l'ambiance du Parc des Princes, le virage Auteuil qui rouvre pour ce match qui a été fermé contre Strasbourg le week-end précédent. Le PSG favori et surtout on attend une très 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 grosse réaction dans cette Ligue des Champions. Warren Zemri devrait pouvoir tenir sa place d'ailleurs. Il est dans le groupe de Luis Enrique.
Et c'est Lulu qui nous écoute ce soir. Lulu, la légende qui nous dit dommage que Platini n'a pas joué au Paris Saint-Germain. Il aurait fait tant plaisir à beaucoup de supporters. Et notamment Benji, oui, Lionel, toujours là. Jouba, réaction, Jouba.
D'ailleurs, alors, match de demain. D'autant PSG plus important Milan. Que Faïsa Lamari, la maman de Kylian Mbappé,
alors, la mère de Kylian.
A avoué que quand il était petit, Kylian Mbappé, le Milan AC, c'est vraiment le club qui le faisait vibrer. Donc il y a aussi une dimension.
Un beau club,
Milan. Pour Kylian Mbappé. Donc le c'est PSG, Arcel, comme l'a dit Mickaël, qui doit se racheter à la suite de cette défaite catastrophique à Newcastle. Donc c'est le moment de marquer le coup. Le PSG qui doit en plus vraiment revigorer son blason. En fait c'est plus là-dessus que ça va se jouer.
Grande soirée d'Europe demain, Lionel, du côté de la Porte d'Auteuil. Il faut la victoire oblige pour les Parisiens.
C'est clair, parce que sinon ça va commencer à sentir le traumatisme la Champions League là.
Et surtout si Newcastle gagne contre Dortmund.
Alors là,
Il y aurait déjà des points de retard, 4 points de retard de mémoire. Bon, c'est que la troisième journée, certes, mais
il faut gagner là. Je pense que la première place,
et je l'ai déjà dit hier, je pense que le PSG a appris de ses erreurs par rapport au dernier match contre Newcastle. Je pense que l'envie va être là. Je pense que Luis Enrique va revenir à un 4-3-3. Et peut-être qu'il faut faire attention aussi aux Milanais.
Attention,
respecter cette équipe. Parce que
grand club européen, grand mondial.
Il y a des très bons joueurs à chaque ligne. Et il y a un très bon gardien. Donc, et puis il y a le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France devant.
Oui, aussi l'international français, Olivier Giroud.
J'ai obligé de la caler, celle-là.
Ça me fait sourire, Benji. On aura Solal aussi. La réaction, PSG.
Non, mais je pense que, si on fait le tour de la table, bien évidemment, tout a été dit. Le Paris Saint-Germain doit s'imposer à domicile face à l'AC Milan. De plus, que tout à l'heure, on parlait du temps qu'on laisse aux entraîneurs. Et si les mauvais résultats, si les contre-performances continuent à aller dans ce sens-là, j'ai peur que la place de Luis Enrique soit remise en question par les dirigeants parisiens, même si je pense que c'est typiquement le genre d'entraîneur à qui on doit laisser du temps pour installer sa patte, encore plus qu'à d'autres à qui la porte était beaucoup plus logique, puisqu'il n'y avait pas de choses qui étaient mises en place. Là, je pense à Marcelino, bien évidemment, je pense à bien d'autres entraîneurs.
Galtier, non ?
Je pense à Galtier, je pense à Pochettino, je pense à beaucoup de gens. Il faut laisser du temps à Luis Enrique, mais pour ça, malheureusement, là, c'est lui qui commence de plus en plus à avoir son destin entre ses mains. Il faut du résultat avant tout. Donc, comme le disait Mathieu, j'ose espérer qu'il va revenir dans un 4-3-3 pour nos amis parisiens, parce que quand il change de système, on sent que tout de suite, il est un peu plus dépassé. Et si Zaïre Emery est présent, c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde.
Ouais. Le Milan doit absolument prendre des points de son côté, parce que c'est deux matchs nuls, zéro but marqué. Je pense que ça commence un petit peu à grincer des dents, et une défaite au Parc des Princes demain, ça signifierait quasiment la fin de l'aventure pour le Milan AC. Petite histoire aussi marrante pendant ce match-là.
Allez, vas-y.
Lucas Hernandez et Théo Hernandez qui vont se retrouver.
C'est ça.
Deux joueurs qui ont joué des deux frères qui ont joué dans des clubs rivaux et qui ne se sont jamais rencontrés en match officiel. Et il faut que Lucas Hernandez fasse le forcing pour partir du Bayern cet été pour arriver au Paris Saint-Germain.
Ben là, ça promet.
Donc voilà, l'histoire, je pense qu'ils sont
sous les yeux d'un certain Didier Deschamps qui sera présent, Lionel, dans les gradins du Parc des Princes demain.
Toutes ces dimensions émotionnelles qu'on évoque là ne me rassurent pas.
Ouais. Mathieu.
Mais tu disais, Mickaël, que l'AC Milan n'avait pas marqué, mais l'AC Milan n'a pas encaissé
de but
non plus.
Exactement.
Donc il va falloir forcer le verrou milanais pour les attaquants parisiens. Et je pense notamment à Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Mais c'est vrai que.
Compliqué Dembélé.
Benji, peut-être. Et moi, j'ai envie de voir Ousmane Dembélé lancer sa saison demain.
Mais qu'on soit bien d'accord, le Milan, on parle du Milan, doit performer, doit prendre des points. Mais le Milan n'est pas du tout favori du groupe, contrairement au Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain est largement favori de son groupe, même si on est sur une poule de la mort.
Faire attention, c'est un
match. On parle concret, on parle de ce qu'on voit, on parle de joueurs qui sont sur le terrain, on voit d'entraîneurs.
Ils étaient en demi-finale l'année dernière. Non,
mais d'accord, mais là, je te parle avec l'effectif qu'ils ont, ça a aussi bougé, avec ce qui est mis en place depuis le début de saison. Le Paris Saint-Germain, même si on est dans une poule de la mort, le Paris Saint-Germain est largement favori de son groupe. À domicile, il doit prendre des points.
Je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que Mickaël a raison quand il dit que l'AC Milan doit aussi prendre des points.
Sauf que le match est favori et l'autre qui est outsider.
Solal, avant peut-être de retrouver le standard.
Oui, tout à fait. Tout à l'heure, Michael évoquait que le dernier match des Milanais, c'était contre la Juventus, et ça s'est soldé par une défaite pour les Milanais. Alors, j'ai une petite info assez intéressante pour vous.
Bon, alors, laquelle ?
Petite anecdote. Il s'avère que là, donc, les Milanais ont perdu 1-0 face à la Juventus, 9e journée de Serie A, et le match s'est passé à 20h45, le buteur étant Manuel Locatelli. Alors si on revient en 2016, il y a eu un match en 9e journée de Serie A qui commençait à 20h45 opposant la Juventus et l'AC Milan. Et qu'est-ce qui a marqué? C'était Manuel Locatelli
Il faudra
rester concentré de toute manière. Le PSG là, il faut pas qu'il se monte parce que les publics, je pense que sinon ils vont vite lâcher l'affaire.
Moi j'attends même plus. Je vais pas dire il faut pas que le PSG se manque.
Alors
je vais aller plus loin. Moi je pense que le PSG doit frapper très fort demain. Je pense que le PSG doit gagner son match sans bavure, avec une grosse intensité comme on peut voir depuis le début de la saison.
Je ne compte pas forcément sur un joueur en particulier.
Sur tout le monde. Ce qui est intéressant avec Luis Enrique cette saison, c'est que par moment, pas toujours malheureusement, mais par moment, on comprend vraiment ce qu'il veut mettre en place. Quand il est en conférence de presse, il dit je veux avoir 11 attaquants et 11 défenseurs. Demain, c'est un match de Ligue des Champions. Ils sortent d'une grosse déconvenue contre Newcastle. Demain, c'est le match où il faut mettre en pratique ce que Luis Enrique il évoque depuis son intronisation au Paris Saint-Germain. Le PSG demain doit frapper très fort et doit dire certes, depuis le début de la saison, c'est en dents de scie, mais on a mis beaucoup d'argent sur ce mercato-là. On a dit au revoir à Lionel Messi et à Neymar et à Marco Verratti. Donc maintenant, il faut assumer ces choix-là, il faut dire on est en Ligue des Champions et on est, malgré le mercato, malgré tous les changements, on est là et on veut la gagner. Donc moi, je pense que le PSG doit frapper très fort demain. Pas une victoire 1-0 à l'arrache.
Il faut un gros match.
Victoire.
En même temps, ce qui n'est pas certain.
Moi, je dis qu'il faut laisser du temps à Luis Enrique aussi, en grande partie par rapport à ce que tu viens de dire, dans le sens où tu perds Lionel Messi et Neymar.
C'est pas une question de catastrophe.
Faut pas juste que ça te change totalement ta façon de jouer. Ça change tout.
Mais ils jouaient pas les deux. Ils étaient là pour la figuration.
T'avais une façon différente d'amener le ballon dans la surface de réparation. T'avais une façon différente de créer des actions. T'avais une façon différente de défendre, de beaucoup de choses. Et derrière, dans tout ça, tu ramènes d'autres joueurs qui n'ont jamais évolué au Paris Saint-Germain, qui n'ont, pour certains, pas joué à ce niveau-là.
Ça apporte aussi une dimension. Je pense que Lionel qui est là, quand t'as ce truc-là où t'as une représentation, t'as l'impression d'être chez toi. Je pense à notamment, j'ai un trou de mémoire, Colomouani, ou même Dembélé qui est français. Donc, je pense quand ils sont à la maison, ça donne plus envie de se déchirer pour le maillot.
C'est ce qu'on voit depuis le début de saison. Il faut un super début de saison.
De bons exemples, bravo, je vois.
Merci. Ça peut. Je dis pas que c'est le cas depuis le début de saison, mais il faut que ça, c'est le but recherché quand ils viennent faire cette francisation.
Avoir ce supplément d'âme, justement, se dire, ils connaissent l'importance du maillot. L'importance du Paris Saint-Germain en Ligue 1, ce que certains joueurs ne connaissent pas quand ils arrivent au PSG. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez exceptionnel. Je ne sais pas si ça a changé avec le changement un petit peu de direction qu'a pris le projet. Mais comme le disait Thiago Motta, quand tu étais une nouvelle recrue au Paris Saint-Germain venue de l'étranger, on t'expliquait pas l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc il y a beaucoup de joueurs qui comprenaient pas l'importance de certains matchs. Et c'est sûr que comme Colomouani, comme Jubal dit, par exemple contre l'Olympique de Marseille, tu sens qu'il a fait un match quand il est rentré, il a cassé la baraque. Donc
reste le meilleur match du PSG cette saison pour
l'instant. Lionel Bellanger, avant la fin de cette émission, les pronostics Lens PSV Eindhoven. Votre ressenti concernant ce que l'on a dit sur le match de demain, PSG Milan AC.
Je suis d'accord avec le fait que l'équipe a besoin d'un déclic, ça c'est sûr. Ils ont besoin d'un déclic, quelque chose qui les fouette quelque part, qui les remette en piste. Parce qu'effectivement, il y a une très grosse page qui est tournée quand même cette année, avec le départ de Messi et de Neymar.
Et Verratti surtout, qui était là.
Et de Verratti, bien sûr. Quant à cette espèce de réflexion sur l'absence d'esprit club, c'est quelque chose qui traîne depuis 6-7 ans, ça. Depuis 6-7 ans. Et là, on est obligé de regarder quand même du côté de la gouvernance, du côté des dirigeants. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui incarne ça. Il faut quelqu'un qui incarne un esprit club. Il faut leur parler aux joueurs beaucoup plus qu'on ne leur parle. Et là, il y a une carence effectivement sérieuse, parce qu'il y a au moins un point commun à chaque fois, c'est ce qui fait sûrement la beauté de la Coupe d'Europe, c'est que ce sont des matchs très durs, c'est un combat à chaque fois.
physique et technique.
Mais oui, mais oui.
C'est pour ça aussi que des fois on voit des petites équipes remporter un match contre une grosse équipe.
Bien sûr.
Le pronostic de chacun sur ce match Lens PSV Eindhoven avec toi, Mickaël. Le premier.
Moi, je dirais un partout.
Un partout pour Mickaël. Mathieu.
Moi, je vois une victoire du RC Lens et je vois beaucoup de buts. Je vais dire 3-2 pour le RC Lens.
Ah, 3-2, carrément. Jouba.
Moi, je vois aussi le RC Lens continuer sur sa belle dynamique et peut-être gagner 2-1.
Oui. Benji.
Et bah, une fois n'est pas coutume, je vais être d'accord avec mon acolyte Jouba. Ouais. Une fois n'est pas coutume, comme pas tout arrive. Ouais. 2-1 pour le RC Lens, pour le RC Lens ce soir. Et allez, je vous donne un petit bonbon. Je vois bien Braga s'apposer face au Real Madrid.
On verra bien demain.
Solal, le millionnaire.
Solal, le pronostic, Lens PSV Eindhoven.
Bah, je pense que Lens va l'emporter. Moi, je veux bien un but de Fulgini, tout simplement, avec peut-être une victoire 3-1 ou 3-2, ce serait bien pour les 100 meilleurs.
Lionel Bélanger, le pronostic. Votre pronostic.
Une victoire aussi. Je pense que ça va être dur comme tous ces matchs-là. Mais allez, 2-1, j'aimerais bien 2-1.
Allez, voilà, pour les Lensois.
C'est les 3 points surtout.
Hein. Ouais, les 3 points et les faux.
C'est plus important. C'est
ça. Un grand merci à Lionel Bélanger d'avoir été avec nous sur cette antenne de Beurre FM. Ils ont garé, on rappelle, le bus devant le but. Pourtant, on a réussi à marquer aux éditions ESF. Voilà. Vraiment une éloge du métier insensé concernant le coach de football. Vraiment un grand merci d'avoir été avec nous, Lionel.
Je constate qu'il y a une constante, c'est que les entraîneurs souffrent toujours quand il y a un bus qui est garé en face.
Et les supporters aussi. Les gens qui regardent le football aussi, on souffre.
Lyon avec son nouvel entraîneur.
Lyon, on en parlait pas. Non, il faut pas remettre une couche.
C'était un autobus à double étage.
Il faut oublier Lyon. Il vient tout droit de Lyon en plus, Benji. Non, faut les laisser tranquilles, les Lyonnais.
Laissez-nous en Ligue 2.
Un grand merci à vous, mes chers auditeurs et auditrices, toujours de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre. Il y a Vanessa qui reprend l'antenne jusqu'à 23h. Bye bye et à demain.
Ciao.
Retrouvez TimeSport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli BeurreFM.